Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
Bonjour à toutes et à tous, mercredi 8 juillet, heureuse de vous retrouver pour ces 2 heures d'infos, 10h midi avec vous. À 11h, on continuera à commenter le nouveau gouvernement de Jean Castex. Et puis entre 10h et 11h, bonjour Gilles Ganzmann,
bonjour
les
Valérie.
Médias, avec comme invité aujourd'hui Patrick Poivre d'Arvor. Patrick Poivre d'Arvor qui va nous parler de cette très belle collection, Une maison, un artiste. Il avait commencé par Une maison, un écrivain, et puis il l'a élargi à d'autres types d'artistes. On va en reparler.
Il sera en vidéo
avec
de
lui.
Sa Bretagne, madame.
Absolument. Et puis, on va parler moustiques, les gros moustiques qui sont là en France, moustiques tigres, qui sont porteurs de maladies assez dangereuses. Et 60 millions de consommateurs à tester les produits répulsifs, les diffuseurs. On vous dira tout ce qu'il faut savoir pour être bien protégé et surtout ne pas s'intoxiquer parce qu'il y a des produits, alors si c'est efficace, qui sont parfois très toxiques. Et puis, on parlera cuisine avec Annabelle Chakmes, qui est une journaliste culinaire et qui a rassemblé des recettes de chef pendant le confinement. Voilà.
On va commencer. Que les applis contre les moustiques, ça ne marche pas. Hein. Tous les gens qui téléchargent l'été, c'est, ça ne fonctionne pas.
Vous voulez faire l'émission
pas.
Non, vous voulez faire l'émission avant
non,
évidemment. Il y a plein de choses qui
il y a plein de choses. Dans cette demi-heure-là, alors j'en profite.
Voilà, il y a plein de choses qui marchent pas, mais 60 millions de consommateurs a priori a bien fait son travail et vous parle de ces applis qui ne fonctionnent pas effectivement, qui sont à la limite de l'arnaque. Les audiences hier soir en tête, c'est France 3. France 3 avec Meurtre en Haute-Savoie, 4 120 000 téléspectateurs. C'était une rediffusion, une re-rediffusion même. C'était la troisième diffusion, ça a très bien marché, 120 000 de plus que la dernière, c'est ce que me signale Rémi Pernelet dans ses audiences, et c'est un vrai carton pour cette série. On a une auditrice en ligne avec nous qui a regardé cela, je crois. Bonjour Brigitte.
Bonjour. Oui, bonjour.
Bonjour Brigitte.
Oui, voilà,
alors vous nous appelez de Narbonne, c'est loin de la Haute-Savoie.
Voilà.
Narbonne.
Non, c'était j'ai regardé pour la deuxième fois en fait.
Oui,
il y a beaucoup de rediffusions en ce moment quand même, hein, depuis le confinement là. Mais bon, c'est quand même une série qui montre le terroir. Il y a de bons acteurs, il y a les intrigues sont bien, donc c'est une bonne soirée.
Ouais, et ça vous gênait pas de voir une série un thriller, un polar dont vous connaissiez la fin ou vous l'aviez oublié?
Non, je n'avais pas oublié, ça revient petit à petit. Ben si, mais en ce moment, c'est quand même un problème à la télé, c'est qu'on n'a que des rediffusions, quoi, depuis 3 mois, là, où on regarde plus la télé, peut-être.
Oui, peut-être, un petit peu plus, oui.
Mais c'est vrai que ça a été...
C'est vrai que ça s'est interrompu la plupart des tournages, mais ça va reprendre. Il y avait des inédits quand même sur TF1 avec Camping Paradis et il y a des choses, je pense, qui vont arriver pendant l'été. Merci de votre appel, Brigitte. Hier, TF1 diffusait Jurassic Park, Le Monde Perdu, enfin c'est Le Monde Perdu, Jurassic Park, 3 145 000 téléspectateurs. C'est pas mal qu'une fiction française en multi-rediffusion fasse mieux que Jurassic Park, c'est plutôt pas mal.
Étonnant.
Ouais, étonnant. Et puis, j'ai envie de dire un petit gadin quand même pour affaire conclue, moins de 2 millions de téléspectateurs, le duel des brocantes, ça a mieux marché que sur le front, mais tout de même, c'est 300 000 de moins que le précédent d'affaire conclue. Visiblement, ça n'a pas totalement convaincu. Et puis un gadin quand même pour M6 avec La France, un incroyable talent, La bataille du jury, le programme visiblement ne séduit pas. 1 803 000 téléspectateurs, 8,6% de part d'audience, c'est pas suffisant, hein. C'est pas terrible, ça n'a pas super bien marché. Mais Le Cerveau avec Belmondo et Bourville, c'est Rémi Pernelet qui me dit ça, W9 est arrivé en 5e position, vous voyez, avec un vieux film, Bourville-Belmondo, ça marche toujours, et il y avait plus d'un million de personnes qui ont regardé ce film. On va passer au zapping.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Hier, Valérie, c'était les résultats du bac. 91,5% de réussite du jamais vu. Bon, c'est un peu la loose si t'es dans les 9%, avouons-le. Sinon, on a le fraté président, hyper cool, tip top, qui nous a fait un top message sur TikTok.
Si vous venez d'avoir votre bac, ce message est pour vous. D'abord pour vous dire bravo, félicitations. Alors maintenant, fêtez-le, profitez-en. Je voulais aussi vous dire que vous êtes cette génération qu'on appelle parfois du monde d'après. Vous avez vécu une année hors norme, des semaines et des semaines passées chez soi, où on vous a privé de fréquenter vos amis, vos copains, d'étudier normalement. Votre génération a donc devant elle un monde à inventer.
Et maintenant, il fait des messages sur TikTok, notre président. Il est branché. Moderne. C'est la première fois qu'un président va sur cette application. Hier, tous les ministres ont fait leur passation de pouvoir, l'occasion pour les nouveaux de faire passer quelques messages, comme pour Éric Dupond-Moretti, notre nouveau garde des Sceaux.
Je pense en particulier à ma mère, qui a quitté son pays d'origine pour fuir la misère et pour arriver ici, dans ce grand pays. Elle est devenue une Française de préférence. Et la Marseillaise l'a fait pleurer. Je serai un garde des Sceaux de sang mêlé. Mon ministère sera aussi celui de l'antiracisme et des droits de l'homme.
J'imagine que vous reviendrez dans vos débats de
11h
midi sur toutes ces passations de pouvoir.
Sur ce discours, voilà.
Et puis hier, donc, je vous avais passé une archive de Roselyne Bachelot qui disait « Jamais je serai de nouveau ministre ». Et bien voici celle d'Éric Dupond-Moretti, 2018, LCI. Il disait à Audrey Crespo-Mara « Jamais je ne serai ministre ».
Si on vous proposait un poste de ministre de la Justice, vous l'accepteriez ?
Non.
Sûr ?
Ah oui, sûr. Vous voulez que je vous le signe ?
Ouais.
Non. D'abord, personne ne me le proposera. Ce sera un bordel. Mais alors, non, mais personne n'aurait jamais l'idée. Sotte, totalement saugrenue, incongrue, invraisemblable de me proposer cela. Et moi, franchement, je n'accepterai jamais un truc pareil. Non, non.
Pourquoi ?
Parce que c'est pas mon métier. C'est pas mon métier. Faut en avaler des couleuvres, hein, pour faire de la politique.
Ah là là, quel menteur ces ministres. Enfin, pas forcément, car écoutez, je vous ai retrouvé une archive média du Monde, toujours en 2018, ce que finalement disait Roselyne Bachelot.
Est-ce que je, dans la carrière politique, est-ce que j'y remordrais ? J'ai dit non, évidemment non, sauf il y a un poste qui me ferait renoncer.
Attention.
À cet engagement.
Attention, scoop.
Scoop. C'est... Mais on peut rêver, on peut s'agenouiller devant la grotte de Lourdes, il y a un certain nombre de choses, s'asperger d'eau bénite. Si on me proposait d'être ministre de la Culture, là quand même... Là, je pourrais craquer.
Ah,
je pense que ni l'un ni l'autre n'ont imaginé un jour qu'on leur proposerait. Voilà.
La nomination de Gérald Darmanin à l'intérieur fait parler d'elle, car le ministre est visé par une plainte pour viol. Et bien hier, le nouveau porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a précisé la pensée du président.
D'abord, la question des investigations sur Gérald Darmanin, sur ce sujet. Moi, ce que je veux dire de manière très claire, c'est que on ne peut pas d'un côté sacraliser la présomption d'innocence en toutes circonstances et considérer que c'est un socle essentiel de notre pays, ce qui est notre cas, je crois, et je l'espère à tous, et considérer qu'il y aurait des personnes qui, par la fonction qu'elles occupent, ne pourraient pas bénéficier de cette présomption d'innocence.
Bon, bah, c'est François de Rugy ou François Bayrou, Valérie, hein, qui aurait aimé bénéficier de telles largesses. En tout cas, ce matin, Jean Castex sur BFM a confirmé un peu les propos. Il y a 3 jours, Martin Hirsch, qui avait accusé le professeur Raoult de mentir sur le taux de mortalité, disait ça à la commission d'enquête.
Donc ce document qui nous a été adressé, le registre REVA, qui évoque un taux de 43%.
C'est un taux à la fois... Ce tableau vient de chez nous, mais ce tableau... Si vous regardez la page d'avant, il est rappelé qu'il y a 50% des patients qui ne sont pas sortis, donc qui ne comptent pas dans le dénominateur.
Oui, il restait des gens hospitalisés, mais sur ceux qui étaient sortis, il y avait bien 43%. Et bien donc, vous vous doutez bien, Valérie, hier, le professeur Raoult était tout triomphant sur sa télé YouTube, mais aussi très menaçant.
Le directeur de la PHP qui disait « Ah, monsieur Raoult ment, il n'y a pas 40% de mortalité ». Et puis on sort de ses propres papiers, de son propre institut, avec ses propres données, mais il ne connaissait pas les vrais chiffres. Donc il faut faire très attention, parce que la prochaine fois, je vais l'attaquer en diffamation. Donc il faut s'arrêter de croire qu'il suffit de parler pour avoir raison. Il faut avoir les chiffres.
Et oui, merci et Gilles pour ce zapping. Notre invité du jour, eh bien, c'est Patrick Poivre d'Arvor.
Sud Radio, le 10h midi, les médias. L'invité du jour.
L'invité du jour, c'est Patrick Poivre d'Arvor. Bonjour Patrick.
Bonjour Valérie.
Comment allez-vous ?
Et ça va très bien.
Très bien. Toujours dans vos livres, toujours passionné de littérature. On vous retrouve tous les jours sur CNews avec un invité, un auteur. Et puis, on va vous retrouver tous les dimanches cet été sur France 5 pour une collection remarquable, Une maison, un artiste, écrivain, chanteur, peintre. Vous allez nous faire découvrir un artiste à travers sa maison. Il y en aura 11, c'est cela ?
Exactement. Et ça fait 10 ans que ça dure.
Et oui.
Donc vous voyez, au terme de la saison, on aura fait une centaine, 101 artistes différents.
120...
Au début, les deux premières saisons, ce n'était que des maisons d'écrivains.
Oui, je me souviens, très bien.
Ouais. Puis après, j'ai élargi à l'ensemble des artistes, que ce soit des peintres, des metteurs en scène, des acteurs, enfin des gens de toute nature. Et puis j'ai même rajouté cette année des maisons, une maison, une légende. Là, des gens comme j'avais déjà fait le général de Gaulle, mais là il y aura Churchill, si tout va bien, si le Covid nous permet de tourner en Angleterre. Ouais. Et il y aura également un Clémenceau. Donc voyez, on revisite l'histoire grâce à cette maison.
Alors comment ça se passe? Est-ce qu'on vous ouvre facilement les portes de ces demeures? Elles ne sont pas toutes accessibles. Moi, j'ai vu l'épisode qui va passer dimanche prochain, Georges Lautner. C'est vrai que c'est assez impressionnant de voir ce moulin dans lequel il a vécu.
Oui, alors vous avez raison de souligner la difficulté. En fait, la difficulté, c'est bon, les choix, évidemment. Ouais. Moi, j'ai envie de tout faire, à condition que les artistes ne soient plus de ce monde. Hein, donc, mais en revanche, après, quand vous avez à discuter avec les ayants droit, avec les gens qui s'occupent de la succession, etc., ou ceux qui ont racheté la maison et qui l'ont transformée complètement et qui font que finalement, il n'y a plus l'âme originelle. Là, ça devient difficile. Parfois, on essuie des refus, mais la plupart du temps, les gens sont très, très sympas à notre égard, parce que depuis 10 ans, ils voient le travail qu'on fait et on honore toujours ces grands disparus. Et c'est vrai qu'on raconte, au fond, l'itinéraire de la création grâce à une maison. On comprend mieux les personnages qui ont habité et même parfois hanté cette maison à travers leur demeure.
Qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça dit, une maison? Alors bon, ça fait, moi je la suis, hein, votre
oui,
série,
oui.
Mais pour expliquer peut-être à nos auditeurs qui la découvriraient, qu'est-ce que ça dit, une maison d'un artiste? C'est un lien très fort.
Vous m'avez cité Georges Lautner. Georges Lautner, il commence par un film qui marche plus ou moins bien, puis assez rapidement, il fait un immense succès, alors que les gens n'y croyaient pas. Il s'agissait d'adapter un roman d'Albert Simonin, Grisby en d'autres Grisby. Et ça devient ce qu'on a appelé, ce qu'il a appelé les tontons flingueurs, et depuis, gros succès. Et donc lui, il se dit, parce que j'ai du succès, les gens vont venir à moi. Je ne vais pas aller frapper aux différentes portes de la Gaumont, d'ailleurs, des artistes et tout ça. Je ne vais pas monter à Paris. Je vais rester dans mon moulin à Grasse. Et donc, tout le monde va venir à moi. Et c'est ça qui raconte toute une bande. Et au fond, il a toujours les mêmes équipes techniques. Il a la chance de pouvoir tourner avec les plus grands acteurs. Oui, oui. Mais ça, c'est parce qu'il a choisi de les faire venir à lui. Auparavant, Hemingway, c'est autre chose. C'est une maison qui est ouverte à tous les vents, avec plein de chats. Il avait déjà beaucoup de chats, et il y en a toujours. Des chats qui sont des descendants de pratiquement des chats de la bien connue Ernest Hemingway. Là, c'est sur les Keys, vous savez, à l'extrême bout de la Floride. Là aussi, ça dit beaucoup de ce goût qu'il avait.
Ça a été important, dans sa vie,
mer,
pour le coup.
Et pour l'alcool, oui.
Mais il y a une vraie injustice, en fait, Patrick Poivre d'Arvor, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de maisons qui ne sont pas au soleil, qui ne sont pas dans le nord ni en Bretagne, hein, quand je regarde toute la liste. Hein. Les artistes, ils vont plutôt dans le sud, non?
Oui, mais si vous regardez bien, vous aurez en troisième numéro Rubens. Donc on ne peut pas dire que les Pays-Bas, ce soit un climat très septentrional, mais assez souvent, vous avez raison, il y a beaucoup d'artistes qui choisissent le sud. pas obligatoirement parce que c'est leur racine, mais parce qu'ils ont besoin du soleil, quoi. Voilà, c'est sûr.
Le choix se fait comment? Parce que c'est très éclectique. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que les deux premières années, vous n'avez suivi que des maisons d'écrivains. On est avec Rubens, Daniel Darieux, Nino Ferrer, le peintre Miro, il y aura Guy de Maupassant, Marie-Josée Natte. Comment vous faites ce choix? Ce sont des gens qui vous parlent, que vous aimez?
Oui, alors pour certains nombres d'entre eux, j'ai bien connu Daniel Darieux, j'ai très bien connu Marie-Josée Natte, que j'aimais beaucoup, puis qui nous a quittés il y a peu de temps et qui habite une maison invraisemblable à Bonifacio.
Incroyable.
On va tomber dans le port tellement elle est haute et perchée en surplomb. Voilà, il y a ça, et puis il y a le désir d'être, vous voyez, Miro, faut tourner en Espagne, Hemingway, faut tourner en Floride, Rubens aux Pays-Bas. Bon, vous voyez, il y a des problèmes de coûts aussi, de ci, de là, puis il faut qu'il y ait des femmes. Bon, voilà, on essaie de faire un mix.
Et vos journalistes ne sont jamais tombés sur des fantômes dans les maisons des artistes, hein. Mais il y a peut-être leur âme qui est là.
Ah, moi je pense comme vous, et je suis absolument persuadé pour en avoir très souvent. Souvent je fais des pré-repérages, vous voyez. Par exemple, je suis allé dans la maison de Mallarmé, la maison de Jean-Jacques Rousseau, pour peut-être des numéros à venir l'année prochaine, si par chance on a à nouveau cette émission. Eh ben, je pense qu'en effet, j'ai senti la présence de Mallarmé, la présence de Jean-Jacques Rousseau, pas uniquement parce qu'on me l'écrivait, parce que je sentais qu'ils étaient là. Et il y a des lieux qui sont très, très, très inspirés.
Ouais. Alors moi, je voulais savoir aussi, parce que c'est une très bonne idée que vous avez eue, est-ce que le format s'exporte? Est-ce que les étrangers sont intéressés à faire également les maisons de leurs artistes à l'étranger?
Oui, le format, c'est intéressant que vous me posiez cette question justement maintenant, et il se trouve qu'on est en discussion avec un certain nombre d'étrangers qui souhaitent le faire à leur tour. Notre seul petit problème, nous, c'est qu'on a des archives, vous voyez, qui coûtent assez cher, donc on a signé pour des accords en France, simplement, donc ça rend parfois la chose un petit peu difficile.
Oui. Vous lisez toujours autant?
Ben oui, oui, oui. Et ça, je sais que c'est une passion commune que nous avons, Valérie. Et bien sûr, oui, parce que je reçois quand même un auteur par jour. Ouais. Et puis ensuite, ça a été ma passion. C'est ce qui m'a fondé, c'est ce qui m'a permis d'être un peu ce que je suis. Et puis, c'est ce qui me permet aussi de continuer à écrire, parce que j'écris aussi beaucoup.
Oui, vous écrivez
juste
beaucoup.
Avant le confinement, j'avais sorti un livre chez Grasset, qui s'appelle L'Ambitieux. Ouais. Et puis là, pendant le confinement, j'ai peaufiné un livre sur la Bretagne qui va venir en octobre.
Oui, il y a encore des choses à dire sur la Bretagne. Vous n'avez pas tout dit.
C'est un livre sur la Bretagne, c'est pas un roman.
Ah non, non, non. Là, c'est un livre sur la Bretagne, mais ça va s'appeler La Bretagne au cœur. C'est très personnel. Vous voyez, je raconte ma Bretagne telle que je l'aime. Enfin, voilà, et je raconte. Justement, c'est pour vous faire plaisir. Il n'y a pas que la Méditerranée.
Absolument.
Et puis, comme on sait, très souvent en Bretagne, il y a beaucoup plus de soleil qu'à Marseille, par exemple. Ouais. Ça a été statistiquement prouvé l'année dernière.
L'Ambitieux, votre livre, du coup, a été une des victimes du Covid, comme hélas de nombreux auteurs qui sont parus début mars. C'est terrible. Nous, on fait tout pour relancer, reparler de ces livres.
C'est dur, ça. Bon, en même temps, je me console en disant que le livre existe, quoi. Ouais. Mais bien sûr qu'il n'a pas eu toute sa chance. Il a été super bien reçu quand il est sorti, sauf qu'il est sorti, il a pris l'air pendant une semaine, et puis après, boum, il est rentré.
Mais il est toujours en vente ou pas? Non, c'est ça, c'est qu'après, il y a un tel rythme aujourd'hui de publication des livres qui fait que les libraires les renvoient et que le livre est...
Et il y a tous ceux qui suivent, là, ça fait la queue derrière.
Ben oui.
Donc je peux me mettre à la place des éditeurs et des libraires, mais enfin, c'est dur, parce que c'est un peu, au fond... Un livre morné, quoi.
Ouais,
c'est un livre qui n'a pas eu toute sa chance. Mais ce n'est pas grave, il existe.
Il existe et il existera peut-être en poche, qui est une seconde vie
Je lui souhaite d'avoir une belle vie. Ouais. Le roman précédent, À la vengeance du loup, avait très bien marché. Et là, c'était la suite, justement.
C'était la suite. Et donc, effectivement,
c'est l'histoire de l'ascension d'un petit garçon qui veut devenir président de la République.
Et puis, une petite question média, vous n'y échapperez pas. Comment vous vivez cette époque des chaînes info où c'est plutôt les réseaux sociaux qui font l'info que l'AFP? C'est une époque qui vous plaît ou vous regrettez la vôtre?
Je peux pas dire. Non, je peux pas dire que ça me plaise parce que je considère que parfois il y a une sorte de dictature d'une actualité imposée et celle-là on va la creuser, on va la rebattre, on va jusqu'à ad nauseum. Et puis après on va passer à autre chose en oubliant qu'il y a eu des choses avant. Ouais. Non, mais je trouve que ça ne nous permet pas la mesure et c'est ça qui est dommage. Alors évidemment, il vaut mieux trop d'infos que pas d'infos, comme dans un certain nombre de dictatures. Et ça, hélas, je vois bien qu'en Chine ou ailleurs, on vit pas formidablement ça. Mais quand même, là, cet amoncellement d'informations me gêne un petit peu. En plus, parfois, un peu trop formaté.
Trop formaté, vous... Quelque part, vous pensez que vous auriez été malheureux si vous aviez été aujourd'hui à la tête d'un journal?
Ben, disons que je suis heureux d'avoir vécu la période que j'ai vécue. Ça, c'est vrai. Ouais. Et vous appelez Sud Radio, il y a des accents chez vous, il y a des gens qui ont des histoires. Enfin, aujourd'hui, il n'y a plus d'accent à la télévision, il n'y a plus de...
De liberté.
La vie commune, tout le monde se ressemble. Quoi. Ouais.
Liberté de ton, liberté éditoriale qu'on a, nous, sur Sud Radio, je le redis, et c'est un luxe inouï, parce que je vois ce qui se passe dans certains nombres de rédactions où les choses sont plus contrôlées, formatées que ça ne l'a été.
C'est très étrange, d'ailleurs, plus on a eu de sources d'informations, que ce soit des radios, télévision ou autre, moins on a eu une vraie liberté. Mmh. Bon, n'exagérons pas, c'est pas non plus le pays de la censure, mais simplement c'est une sorte de, voilà, tout se ressemble, tout est nivelé, et je trouve ça vraiment regrettable. Et je pense qu'il faut qu'il y ait un sursaut des journalistes, bon, même si eux, très souvent, sont dans des situations précaires, donc ils ne peuvent pas trop se plaindre, parce que sinon, ils prennent la porte. Mais il faut quand même qu'on aide ce métier à revivre et pas uniquement à cacter derrière les réseaux sociaux pour...
Le problème, c'est que souvent les journalistes eux-mêmes sont assez formatés et assez, dans le côté mainstream.
Il y a leur formation dans les écoles de journalisme. Moi, je me souviens avoir démarré avec des gens qui n'avaient parfois pas leur bac, qui étaient des anciens médecins, qui étaient des gens de toute nature, qui arrivaient de la pub, des choses. Aujourd'hui, tout le monde vient à peu près de la même formation. Donc, c'est un peu naturel qu'ils se ressemblent.
Mais d'un autre côté, vous ne trouvez pas que les politiques n'acceptent plus d'être confrontés aux journalistes, qu'ils n'ont plus le même langage? Il y a du marketing derrière. Moi, je trouvais que les interviews que vous faisiez des politiques étaient différentes de celles qu'on fait maintenant. On a l'impression que c'est le politique qui a la main sur le journaliste, non ?
Ben, il y a malheureusement en effet ce phénomène des éléments de langage là, qui est épouvantable, où tout le monde se refile les trucs à dire, et donc il n'y a aucune espèce de sincérité, notamment au lendemain d'une élection, là on vient de dire ça pour les municipales, où tout le monde peut dire le même truc, et ça c'est dommage. Par ailleurs, il ne faut pas hésiter à rentrer dans le lard, il ne faut pas hésiter non plus à être impertinent. Et je trouve que c'est un peu dommage qu'il y ait moins de
spontanéité.
Pas de grain de sel ou de grain de poivre, mais je pense qu'il faut de temps en temps assaisonner quand même ces hommes politiques qui sont suffisamment forts pour tout encaisser. Donc, moi, je n'hésitais pas à le faire. Parfois, ça m'a valu quelques ennuis. Mais au moins, je me suis ébroué comme je l'entendais.
Qu'est-ce que vous regardez à la télé? Vous la regardez, la télévision?
Je suis désolé, Valérie, mais je la regarde pratiquement pas.
Je ne voulais pas être désolé, mais c'était une question.
C'était déjà le cas quand j'y étais, enfin quand je présentais le journal télévisé. Comment vous dire, pendant le confinement, j'ai adoré regarder des très vieux films, des films en noir et blanc. Ça m'a plu, mais pour le reste, non, je n'ai pas de... Comme j'écris, il faut bien que je trouve du temps pour écrire.
Hein, et puis livre un auteur par jour, donc sur CNews, on le rappelle, ça donc occupe. Ça occupe.
Faut lire.
Voilà, et puis donc on aura le plaisir de vous retrouver, d'entendre de votre voix tous les dimanches soirs sur France 5. Ernest Hemingway, c'était dimanche dernier. Le Moulin de Georges Hötner, regardez-le parce qu'il y a des extraits évidemment formidables. Puis vous avez trouvé des choses très anciennes, en plus des documents très étonnants dans ce documentaire. Ensuite, ce sera Pierre-Paul Rubens. Et puis, je l'ai évoqué tout à l'heure, Zola, Daniel Darieux, Nino Ferrer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Patrick Poivre d'Arvor. Très bel été.
Merci
à vous. Et puis, à la rentrée,
on se refera un petit point. Si vos auditeurs veulent récupérer Hemingway, ils peuvent le faire avec
sur le replay
samedi suivant à 20h.
Ah, c'est parce que ça va être rediffusé. Voilà,
c'est rediffusé. C'est à 22h35 et le samedi suivant à 20h sur France 5.
Très bien, merci à vous, bel été à vous, à bientôt Patrick, au revoir.
Au revoir à tous les deux,
au revoir.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, on va parler cuisine vers 11h moins le quart, mais je suis en ligne avec Sylvie Metzlar. Bonjour, vous êtes rédactrice en chef du mensuel 60 millions de consommateurs, bonjour à vous.
Bonjour Valérie.
Bonjour, comment se débarrasser des moustiques sans s'intoxiquer? C'est le numéro qui est en kiosque ce mois-ci. Moustiques, la chasse est ouverte, 28 produits à la loupe, les plus efficaces, ceux qu'il faut éviter. Et puis, vous évoquez tous ces produits qui ne servent vraiment à rien. Vous avez testé donc un certain nombre de produits anti-moustiques, des diffuseurs, des aérosols, des huiles essentielles. Vous avez testé leur efficacité, l'impact sur la santé et sur l'environnement. Alors déjà, comment on fait pour tester des produits anti-moustiques, Sylvie Metzlar? On s'enferme avec des moustiques dans une pièce?
Ben, c'est un peu ça. En fait, il y a vraiment des protocoles. Hein. À chaque fois qu'on fait des tests, il y a des protocoles très sérieux. Alors, c'est différent en fonction des produits. Par exemple, pour les répulsifs. Alors, les répulsifs, ce sont les produits qu'on s'applique sur la peau ou sur les vêtements. Alors, on prend des volontaires. On leur badigeonne un bras avec le produit. Et après, ils introduisent le bras badigeonné et le bras non badigeonné dans une cage, ça s'appelle le test de la cage, et après on regarde ce que ça donne. Donc toutes les heures, pendant 30 secondes, ils mettent leur avant-bras avec le répulsif et sans répulsif dans la cage aux moustiques, et après on calcule le temps écoulé avant la première piqûre sur le bras avec répulsif. Et on fait le nombre d'heures en fonction de ce qui est indiqué sur le produit. Si c'est 8 heures, bah vous faites 8 fois. Voilà.
Ouais. D'accord. Alors, on ne va pas évidemment donner tous les résultats. Il faut aller en kiosque trouver 60 millions de consommateurs. D'abord, il faut rappeler que les moustiques tigres arrivent en France, sont arrivés, qu'il y a un certain nombre de départements qui sont concernés.
C'est énorme. C'est 58.
Ouais. 58 départements.
Oui. Avec une vingtaine beaucoup plus à risque. Alors c'est toute la vallée du Rhône et du Sud principalement, mais maintenant aucune région n'est épargnée par cette bestiole.
Oui, et qui transmettent des maladies parfois assez graves comme le chikungunya, la dengue ou Zika. Donc comment s'en protéger? Peut-être qu'on peut commencer avec les répulsifs, parce que le problème, si j'ai bien compris en lisant votre dossier, c'est que certains sont efficaces mais ils ne sont pas inoffensifs pour la santé.
Alors en fait, il n'y en a aucun d'inefficace parce que ce sont des produits avec des substances actives dedans, et forcément, les trois quarts du temps, elles sont irritantes, bien sûr. Alors il y a plus ou moins irritant et plus ou moins raide pour la santé, quoi. Alors nous, ce qu'on préconise plutôt à 60 millions de consommateurs sont plutôt les répulsifs, donc c'est ces produits qu'on se met sur la peau. Alors dans certaines conditions, il faut bien regarder la notice d'usage, parce que notamment pour les enfants, il y en a qui sont réservés aux enfants, mais aussi pour les femmes enceintes pour lesquelles c'est interdit. Alors, ces produits-là ont un peu plus notre faveur, parce que les principes actifs, ce qui va faire que les moustiques vont être tués, sont peu toxiques. Alors, ce sont souvent des dérivés d'huiles essentielles comme le citrodiol, c'est l'eucalyptus citronné, hein, en fait. Alors, le risque maximal, c'est plutôt une irritation oculaire. Voyez-vous, si vous ne vous rincez pas bien les mains, on a vu avec nos histoires de masques qu'on a tendance à beaucoup pouce touché le visage, vous risquez vraiment d'avoir des irritations des yeux. Mais ce sont ceux-là qui sont les moins invasifs, on va dire.
Oui. En même temps, ceux qui sembleraient être aussi les plus écologiques et les moins toxiques sont assez inefficaces, en particulier les huiles essentielles. Les huiles essentielles en tant que telles, voilà,
Reconnues comme tueuses de moustiques, il n'y en a pas 52, hein, deux en tout et pour tout. Et effectivement, on peut, c'est pas en faisant un petit coup d'huile essentielle comme ci, comme ça, qu'on va se protéger. Et surtout, c'est vachement dangereux. Hein, c'est vraiment, faut pas oublier ça. Hein, c'est très, très irritant. Et pour les personnes qui sont allergiques, les huiles essentielles, il ne faut pas faire n'importe quoi avec.
Oui. Les bougies, ça ne marche pas.
Non, c'est comme les. Ben, voilà, ouais. Vous êtes jamais à distance suffisante et entre vous et la bougie, il vous préférera toujours vous. C'est comme on avait testé, on l'a pas refait là parce qu'on a on a vu il y a deux ans, on avait fait les. Vous savez tous ces petits bracelets, etc. C'est pas du tout suffisant pour se protéger.
Ouais. Les petits tortillons non plus.
Non.
Ceux qu'on allume. Non. Non. Bon, d'accord. Les pièges à moustiques non plus.
Oui, il y en a qui sont un peu mieux que d'autres, effectivement. Après, effectivement, en termes d'efficacité, ce sont vraiment les produits qui sont destinés à ça. Alors, les bombes, effectivement, quand on voit nos résultats, c'est mortel pour le moustique, ça c'est vraiment le cas de le dire. C'est très efficace, mais là il faut prendre des précautions. Et si on pulvérise, faut pas être dans la. Enfin, on pulvérise un coup, on quitte la pièce et on attend que ça fasse ça.
C'est compliqué, voilà, c'est ça.
Tout à fait. Alors ce qu'il y a, c'est que nous on déconseille complètement les diffuseurs parce que les diffuseurs.
Alors qu'est-ce que vous appelez diffuseur?
Alors c'est ce que vous branchez dans votre prise électrique et vous avez des petites recharges, soit solides, soit liquides. Et ces produits-là, vous allez être en contact avec eux pendant toute la nuit. Donc l'irritation, c'est quand même beaucoup plus. Vous avez quand même beaucoup plus de risques quand vous êtes exposé sur du long terme que si c'est quelques minutes dans la journée uniquement.
Oui. Donc, c'est efficace. Après, il faut choisir. C'est ça entre l'efficacité et sa santé, en gros.
Alors, en termes d'efficacité, nous, les diffuseurs, on les a pas trouvés très efficaces. Hein, je crois, si je dis pas de bêtises. Alors, si il y en a un à 14,5, un autre à 15. Sinon, c'est plutôt du 12. Alors que sur les autres produits, on a jusqu'à des 17, voire des 18, 19, quoi. Donc, certains sont un peu plus efficaces que d'autres, à savoir ceux qui ont des recharges liquides, mais ce sont les plus toxiques.
Qu'est-ce qu'on fait quand on se couche et que on veut, alors vous évoquez la moustiquaire, pas toujours facile à installer, mais qui reste quand même relativement efficace, mais sinon c'est de se protéger
vous pouvez effectivement mettre un petit peu de répulsif, ça c'est sûr, mais faut porter des vêtements, hein, il n'y a pas 50 000 solutions. Et si s'il n'y en a aucune confiance et qu'il y a vraiment dans les zones infectées, il faut pas rigoler, il faut pas se dire on met rien, c'est pas dangereux et tout. Non, il faut faire des choses. Donc mettre un répulsif, ça c'est une possibilité. Ou si vous voulez pulvériser votre chambre, faites-le, mais bien avant de vous coucher, et naturellement en fermant bien tout pour pas que les bêtes, c'est une efficacité certaine. Mais sinon la moustiquaire, et en plus il y en a de plus en plus maintenant et qui sont vraiment bien, et ça vaut le coup d'investir sur les moustiquaires, y compris d'ailleurs aussi vous mettez dans vos fenêtres des pare-moustiques. Franchement c'est bien.
Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude en France de se protéger à ce point contre les moustiques, la vigilance. Alors il faut dire qu'il y a un site internet Vigilance Moustique qui vous indique si votre région est infestée par justement ces moustiques tigres, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, on n'a pas eu jusqu'à maintenant, en tout cas partout en France, peut-être des régions plus au sud effectivement où il y avait des moustiques, mais on n'a pas eu l'habitude de se protéger à ce point-là.
Non, parce que ces sales bestioles sont arrivées en 2004 seulement en France. Ouais. Donc on voit hein, 2004-2020, 58 départements, ça va quand même à une vitesse folle. Et à ce rythme-là, naturellement, il n'y aura plus aucun département protégé dans très peu de temps. Donc voilà, il faut vraiment être prudent pour tout. Effectivement, il y a un site mis en place par l'ANSES, les autorités de santé. Il y a différents sites d'ailleurs. Si vous faites moustiques, invasion de moustiques sur votre moteur de recherche, vous allez tomber forcément sur des sites, ouais. Mais avant de partir en vacances, mieux vaut effectivement regarder dans quelle zone on va et se protéger ouais. en cas de besoin.
Oui, mais il n'y a pas de... Alors, Gilles Ganzman, tout à l'heure, dans la première partie, évoquait ces applications anti-moustiques avec ultrasons. Ça non plus, ce n'est pas, ouais, c'est pas très efficace.
Non,
hein.
non.
Même
non.
Pas du tout.
Pas du tout. C'est un peu extrême, mais pour ouais. nous, ça n'est pas efficace, effectivement.
Oui. Bon, vous donnez, il y a à lire beaucoup, hein, dans ce numéro de 60 millions, en particulier sur Yves Hansmann, qui est chef du service des maladies infectieuses et tropicales, qui explique le type de maladies qui peuvent être transmises par les moustiques ouais. et par les tiques aussi. Et puis les conseils en particulier pour quand on va se balader dans les bois et particulièrement faire attention pour les enfants.
Tout à fait. Et aussi bien après les promenades, il faut surtout bien s'observer, parce qu'on n'a pas forcément senti qu'une petite bestiole était rentrée chez nous. Alors on dit bien où ça va se loger, etc. Les plis du corps derrière les oreilles, le cuir chevelu, ouais. etc. Et il faut vraiment bien faire gaffe à ça, parce que oui, c'est très sourd. Hein, on les sent pas arriver, ces bestioles-là.
Ouais. Ce qu'il faut retenir donc de votre dossier, donc si vous voulez voir les produits qui ont été testés, donc je vous encourage à aller découvrir ce dossier de 60 millions de consommateurs. Mais chez l'enfant, vous êtes extrêmement sévère, enfin en disant il faut vraiment respecter les limites d'âge sur les produits répulsifs,
bien
protéger les enfants, les insecticides loin des enfants et des femmes enceintes, les aérosols pour tuer des moustiques avant d'aller se coucher, mais il faut vraiment vraiment attendre que ce soit bien que l'aérosol soit bien diffusé, et puis les diffuseurs solides qui sont plus sûrs que les versions liquides, mais qui diffusent, vous l'avez dit, des substances nocives. Donc voilà, et attention, parce qu'effectivement ces moustiques, vous le dites dans le dossier, sont particulièrement dangereux. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'on me dit sur internet? J'ai acheté un Vortec via Facebook, c'est un piège avec la lumière violette qui est censée les attirer. Complètement bidon, un moustique attrapé en un mois. Ben, voilà, il a compté les moustiques. Et c'est vrai que des gens nous disent que dans le sud, c'est très difficile. Il y a énormément de moustiques. Donc voilà, ben, écoutez, à suivre, donc à lire dans 60 millions de consommateurs. Merci d'avoir été avec nous. Bon été, protégez-vous, vous aussi, des moustiques, parce qu'ils sont partout, ils nous piquent. Merci à vous, Sylvie, d'avoir été là ce matin. Et puis à découvrir également comment rafraîchir son logement sans clim. On parlait des clims lundi. Et puis les eaux minérales que vous traitez dans ce dossier, absolument passionnant. Allez, on se retrouve, nous, dans un instant avec Annabelle Chakmes. Bah, tout de suite d'ailleurs, pour parler cuisine.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, et on a un petit air de vacances quand même cette semaine. On sent que l'été approche. Annabelle Chakmes, bonjour.
Bonjour Valérie.
Vous êtes journaliste culinaire, vous êtes photographe, vous avez publié de très nombreux livres de cuisine, La cuisine juive, La popote du Nord, I love mes petits plats mijotés, que des choses bien légères à chaque fois, mais gourmandes, vous êtes une gourmande. Et alors pendant le confinement, vous vous êtes dit que tous ces chefs qui s'étaient mis à cuisiner, ça ferait un bon livre. Alors c'est un livre qui va paraître, ça s'appelle Plat de chef à la maison, aux éditions Solar. Ça va paraître à la rentrée, on peut déjà le précommander, mais j'avais envie de faire un petit point avec vous, un petit tour de ces recettes. Déjà, comment vous avez eu l'idée, comment vous les avez contactés, ces chefs?
Bah écoutez, moi je m'ennuyais quand même beaucoup, et au lieu de faire des captures d'écran des recettes qui m'intéressaient sur les réseaux sociaux, j'ai pris un cahier, comme j'avais le temps, et j'ai tout réécrit dans un cahier. Et quand j'ai eu mon éditeur au téléphone, je lui dis, on peut pas, culinairement parlant, ne pas laisser une trace de ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu une vraie révolution culinaire pendant ce confinement. Les gens ont été obligés de cuisiner. Et il fallait laisser une trace culinaire de ce moment. Donc c'est ce que j'ai proposé à mon éditeur. J'ai demandé à ce que l'intégralité des bénéfices de ce livre soit reversée à un fonds de solidarité qui va être créé, qui est en train d'être créé pour les restaurateurs, parce qu'il n'en existait pas de spécifique en réalité. Et que du coup, c'était très compliqué de voir ces gens dans une détresse effroyable sans pouvoir les aider. Alors, on a aidé beaucoup de gens et c'était tout à fait louable, mais ces gens-là précisément avaient besoin d'une aide et on a essayé de faire en sorte que ce soit le cas.
Donc vous avez allié l'utile à l'agréable, donc c'est ces recettes donc que vous avez publiées. Alors on peut parler aussi du succès de Cyril Lignac à la fois à la télévision et pour son bouquin. Hein, ça c'est vrai que c'est un carton. Alors ce sont des recettes. Qu'est-ce qu'ils ont cuisiné les chefs? Qu'est-ce que vous avez remarqué comme tendance? Ils se sont mis en fait à niveau des gens?
Alors certains oui. Et la plupart, oui. Mais c'est vrai que c'est très difficile pour un chef étoilé, par exemple, de redescendre en grade, si vous voulez. Et c'est, alors, mais la plupart a réussi. Vous voyez, par exemple, Hélène Darroze m'a donné la recette d'une volaille farcie avec des pâtes langues d'oiseau et des champignons. Enfin, c'est des plats qui sont, pour la plupart, ce qui les rassemble tous, c'est que ce sont des plats extrêmement gourmands.
Oui, ce sont des plats gourmands, des plats roboratifs et rassurants.
Exactement.
Alors, ils ont tous accepté que vous fassiez ce livre?
J'ai eu des refus que j'ai compris parce que c'était tout à fait légitime. En tout cas, ceux qui ont accepté, enfin dans les chefs qui ont accepté, ce qui était intéressant aussi, c'est que j'ai demandé à chacun de me raconter son confinement, comment il a vécu son confinement, ce qu'il en a tiré de positif. Et au final, je pense que ça va vraiment ancrer le moment, enfin, que dans quelques mois, on pourra regarder ce livre avec un peu plus de recul et se dire, bon, c'était compliqué, mais on a quand même bien mangé.
On a bien mangé. Vous avez créé aussi, vous êtes une gourmande, une cuisinière, même si vous préférez manger que cuisiner, mais non, vous mangez aussi, puisque pour vos livres, vous êtes obligé de tester les recettes. Vous avez une recette fétiche, on a tous eu pendant le confinement peut-être une recette qu'on a fait et refait.
Alors moi j'ai eu le droit de mettre une de mes recettes dans ce livre et j'ai partagé une recette de ma grande tante qui est une recette de famille et qu'elle m'avait donnée de façon très privée et intime et donc je lui ai demandé l'autorisation de partager cette recette dans ce livre et c'est un gratin de chou-fleur mais ce gratin de chou-fleur a vraiment l'odeur de mon enfance et c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure, c'est des plats gourmands roboratifs et ce plat là moi vous savez enfin quand j'ai le président de la République qui me dit à 20h que c'est la guerre et que moi je suis cachée sous le lit, enfin, j'étais en angoisse absolue. Et ce plat a vraiment été un plat que j'ai fait plusieurs fois pendant le confinement et je me suis rendu compte que c'était un vrai antidépresseur pour moi. Ouais. C'était vraiment un plat qui, en plus de me nourrir, me rassurait énormément. Mmh.
Ouais, il y a ces chefs ont été, on l'a évoqué, beaucoup d'entre eux vont être en grande difficulté, sont en grande difficulté. Hein, les gens ne sont pas retournés dans les restaurants dans beaucoup d'endroits pour plein de raisons. À la fois peut-être la peur du Covid, parce que certains ont des difficultés économiques également. Ça va être une période compliquée aussi pour les restaurateurs, cet après Covid. Hein.
Mais moi, j'y suis retournée parce que par la force des choses, c'était, je pense, que ce qui m'a le plus manqué, pendant ce confinement. Mais effectivement, on est plus du tout dans un monde qui est semblable à celui d'avant en termes de restauration. Je trouve que, voilà, on a les restaurateurs qui font extrêmement attention, on a ceux qui sont un peu plus laxistes. Je pense que l'après va être très difficile, effectivement, à plein de niveaux, que ce soit en termes de clientèle ou en termes de restaurateurs eux-mêmes.
Alors, faites-nous rêver, quelles recettes on va retrouver dans votre livre ?
Ah, vous allez retrouver une recette que j'ai beaucoup aimée, qui est la recette de Jean-François Piège, qui a fait le gâteau de sa grand-mère à l'orange, qui est absolument incroyable. Alors, bon, il y a
Je peux vous faire
peur.
Une confidence.
Dites-moi.
Je l'ai fait, je crois, une dizaine de fois pendant le confinement.
Mais on est d'accord
parce que
qu'il
je
est
suis,
absolument
voilà,
incroyable.
C'est un gâteau extrêmement facile à faire et très, très bon. Alors, il y a un peu de beurre dedans, c'est sûr. Mais il est très bon.
Oh, il est inratable. Bon, il est extrêmement ratable. Oui, inratable et rapide. C'est ouais. hyper rapide. Il y a des recettes de... Il y a des recettes. Il y a Claire Etzler qui nous a donné un cake aussi qui est absolument aérien. C'est divin. On a des recettes. Greg Marchand nous a donné une recette de salade de tomates aux cerises avec une autre tomate qui je pourrais lécher le plat tellement c'est incroyable. Et on a aussi des chefs du Sud parce que c'est le propos quand je vous parle. Et c'est vrai que on a Pierre Auger qui nous a donné une recette de pizza choco banane qui est vraiment délicieuse. Et on a un chef que j'aime beaucoup qui s'appelle Ludovic Turac qui nous a donné une recette de tartine d'aioli qui est sublime.
Bon, bah écoutez, ça s'appelle Plat de chef à la maison. C'est aux éditions Solar et vous pouvez déjà le précommander. 80 recettes réalisées par de grands chefs pendant le confinement. Ça sort en septembre, mais bon, je veux pas être oiseau de mauvais augure, mais on risque d'avoir encore de la cuisine à faire dans les mois qui viennent. Donc, on l'attend avec impatience. Merci beaucoup, Annabelle Chakmes, d'avoir
vous,
été
Valérie.
Avec nous ce matin. On se retrouve, nous, dans quelques instants pour commenter l'actualité. L'actualité, c'est toujours. Évidemment, ce nouveau gouvernement, le gouvernement de Jean Castex. À tout de suite.